aujourd'hui à Rencontre Spirituelle un bienheureux. Un bienheureux, qui est un pape assez spécial, 1911. Alors on va faire de l'histoire aujourd'hui, on va se promener au 17e siècle, en compagnie de ce pape d'origine italienne, un pape audacieux, un pape courageux, sincère, et considéré comme un réformateur. Oui, c'est un réformateur, c'est incroyable tout ce qu'il a fait. Alors c'est exceptionnellement de l'histoire qu'on va faire aujourd'hui, de façon assez précise, et on va apprendre, j'espère, bien des choses en faisant la connaissance de Benedetto Odescalchi. C'est un nom de famille tout à fait italien. Odescalchi, c'est O-D-E-S-C-A-L-C-H-I, comme vous savez. Odescalchi. Ou Odescalchi, peut-être, parce que c'est à la fin du mot, je ne sais pas. Et il est le fils de Livio et de Paul Castelli, que sont des nobles, des gens riches, d'ailleurs, qui habitent Côme. Côme, c'est dans le nord de l'Italie. Vous êtes peut-être déjà allé là. C'est en Lombardie, au sud du fameux et très beau lac de Côme. Et Benedetto Benoît, en français, est né le 11 mai 1611. Donc, il vit vraiment au 17e siècle, puisqu'il meurt en 1689, un 13 avril. Après avoir fait ses études chez les Jésuites, oui, c'est un produit des Jésuites de Côme, il séjourne quelque temps chez des cousins qui sont banquiers à Gênes, encore des gens riches. Et en 1636, à 25 ans, quoi, il se rend à Rome, où il étudie le droit, à l'université qu'on appelle la Sapience. Puis, il passe à Naples, vers le sud, où il est reçu docteur en droit. Il devient membre des confréries mariales, c'est un homme pieux, pour y apprendre l'amour, le véritable, celui qui est pur, dit-il. Il apprend aussi la pratique de la charité, le soin des pauvres. Et Benedetto Odescalchi a toujours mené une vie chrétienne, vraiment sérieuse. Ça le prépare justement à devenir ce pape réformateur. Ce n'est pourtant qu'en 1640 qu'il se décide, à 29 ans, à entrer dans le clergé. Il est tout près de ses 30 ans. Le pape, qui était là, Urbain VIII, le nomme aussitôt protonotaire apostolique. Il est admis à la chambre apostolique. Il est chargé de l'administration des États pontificaux, qui sont immenses à cette époque. C'est pas le petit Vatican d'un demi-kilomètre carré, là. C'est une partie de l'Italie. Et il est avocat fiscal à Fermo. Fermo, c'est dans le sud, ça. Et en 1644, il est gouverneur de Macerata. Comme vous voyez, il monte. Ses fonctions sont rendues difficiles par des années de famine, de disette, mais il réussit à gagner une véritable popularité auprès de ses administrés dans les territoires du Vatican, les États pontificaux, là. Et il faut dire qu'il ne se contente pas de donner des ordres. Il veille à leur exécution. C'est un homme pratique et décidé. Il travaille sans cesse, il n'arrête pas. Puis, il est généreux, il puise dans sa fortune personnelle. Je vous l'ai dit au début qu'il était de famille riche, donc il puise dans sa fortune personnelle pour combler même le déficit des États pontificaux. C'est donc un homme qui sait ce que c'est que la pauvreté, du moins la générosité, le travail, la piété, la foi. Il quitte la chambre apostolique, ce docteur en droit, au moment où, le 16 mars 1645, il est créé cardinal à 33 ans. Cardinal diacre. Il n'est pas prêtre encore. Tout se passe très vite, mais il doit être ordonné diacre, puisqu'il ne l'est même pas. Et alors, pour se conformer aux règles canoniques, Il reçoit alors les ordres mineurs, le sous-diaconat, puis finalement, comme je vous ai dit, le diaconat, puis il est nommé légat de Ferrare. En 1650, il est promu évêque de Novare, déjà, d'un seul coup. Alors, il reçoit donc, à 39 ans, l'ordination sacerdotale, puis qu'il a déjà reçu depuis quelques années d'ailleurs, peu après son diaconat. Et là, il reçoit l'ordination épiscopale le 19 janvier 1651. Certains auteurs prétendent qu'il a été ordonné prêtre juste avant. Je crois que c'est faux d'après les documents que j'ai vérifiés. Il se retire ensuite à Côme, près de sa famille, et il prend possession effective de son siège d'évêque en 1652, en février. Et 4 ans plus tard, il rentre à Rome et il va vivre là jusqu'à son élection comme pape en 1676, donc après 20 ans de séjour à Rome, où il a fait preuve d'énormément de qualité. Il a donc été créé cardinal par Innocent X en 1645, et le cardinal Odescalchi prend part aux 3 conclaves, d'où avant son élection comme pape lui-même, il participe à l'élection de 3 papes, donc Alexandre VII, Clément IX, Clément X, et pour éviter de plus grands problèmes, de plus grands maux, ces papes-là se sont montrés assez souples devant les exigences du roi de France, Louis XIV, qui était extrêmement autoritaire à l'égard des papes. Je vous raconterai ça tout à l'heure, dans quelques minutes. Au conclave, là, qui a suivi la mort du dernier de ces 3 papes, Clément X, il est mort, lui, le 22 juillet 1676, les cardinaux, qui sont influencés par les princes et les rois, ils hésitent longuement entre le neveu, justement, de ce pape qui vient de mourir, le neveu de Clément X. Ils hésitent aussi entre un autre cardinal, qui penche du côté de l'Espagne. C'est des questions politiques qui entrent dans l'élection des papes à ce moment-là. Puis il y a le cardinal Odescalchi. Alors Louis XIV, lui, n'est pas tout à fait d'accord, mais il accepte finalement la candidature de cet Italien. Et il est élu le 21 septembre 1676, après 2 mois de conclave et de discussions interminables. 2 mois qui sont enfermés à discuter pour savoir qui ils vont élire comme pape. Aujourd'hui, ça se fait en 2-3 jours, 2 jours même. Et si quelques-uns avaient cru choisir un pape de compromis, comme on avait fait quand on a élu Jean XXIII, ils ont été détrompés de la même façon que quand ils ont élu Jean XXIII, même avant le dernier vote. Hein, durant la nuit qui a précédé le dernier vote, là, à la fin des 2 mois de discussion, le cardinal a déclaré aux autres cardinaux qu'il n'accepterait la charge de pape qu'il lui propose que s'ils veulent signer immédiatement le programme de réforme qu'il a préparé. Il est décidé, hein? Et les accords durant les conclaves ont souvent été interdits par les papes qui craignaient justement des excès de pouvoir de la part des électeurs, mais Innocent XI viole, on pourrait dire, la lettre de la loi, bien qu'il soit un saint cardinal, mais il en observe l'esprit. Puisque, loin de s'engager à tolérer des abus, c'est pas pour ça qu'il veut avoir des votes, c'est au contraire parce qu'il ne tolérera pas les abus qu'il les avertit à l'avance. Hein. Il revendique le droit de les supprimer, les abus. Son programme ne demeure pas un simple témoignage de bonne volonté, là. Cet homme exceptionnel s'emploie durant tout son pontificat, d'ailleurs, vous allez voir ça, à le faire passer dans la pratique. C'est un grand réformateur qui a des tendances légèrement jansénistes à un moment donné, qui a des tendances dans sa réforme à être un peu sévère, comme les grands réformateurs protestants. Hein. Prenez Calvin, les réformateurs ont tendance parfois à être un peu sévères. Ça prend peut-être des hommes de ce tempérament, hein. De l'avis de tous ceux qui l'ont connu, même de ceux qui ne l'aimaient pas tellement, là, Innocent XI, ce bienheureux pape Innocent XI, qui a été béatifié par Pie XII seulement dans ce siècle-ci, ouais, a été un pape très pieux, vertueux, austère, oui, très économe, ennemi du luxe, Et c'était peut-être un homme, sous certains rapports, un peu trop grave. Il faut dire qu'il avait une mauvaise santé, qui n'a fait que s'aggraver. Ça l'a obligé même à, pour ainsi dire, on peut garder la chambre. Il était obligé de garder sa chambre à partir de 1682, lui qui est mort seulement 7 ans plus tard. Alors il travaillait de sa chambre, et souvent même de son lit, dont il ne pouvait pas se lever tellement il souffrait. Il souffrait d'insomnie d'ailleurs, ça peut être le patron des insomniaques. Il souffrait aussi à l'occasion de petites dépressions qui l'affaissaient. C'est pour dire que d'être insomniaque, ça n'est pas facile. Et il avait perdu le sommeil, pour ainsi dire. Pas facile. Et ça renforce donc ses traits de son caractère. Mais il sait prendre conseil, c'est un homme sage, c'est un homme pieux, c'est un homme bon, hein. Ses adversaires prétendent qu'en prenant tellement conseil comme ça, il se laisse influencer. Mais c'est pas vrai. Il prenait ses décisions lui-même. Et en fait, quand il a pris une décision qu'il juge nécessaire pour le bien de l'Église, rien ne le fait céder. Le bien de l'Église passe avant tout. Il n'est pas question avec lui de népotisme, comme on dit souvent, c'est-à-dire de favoriser des membres de sa famille ou des membres des familles des papes précédents ou des membres des familles des cardinaux. Il n'est pas question de ça pour lui. Il est droit. Et rien, donc, ne peut le faire céder. On lui a reproché, d'ailleurs, de ne pas avoir été, d'autre part, un grand théologien. C'est assez exact, hein? C'était un homme d'administration, c'était un docteur en droit. Et ça se comprend. Quand on se rappelle qu'avant d'être élu pape, n'est-ce pas, il n'était pas tout à fait un penseur. C'était, comme je l'ai dit, un administrateur. Hein. On disait la même chose du pape Jean XXIII. Mais sur ce point encore, il faut rien exagérer, ni pour l'un ni pour l'autre, d'ailleurs. Mais si les actes les plus retentissants du pontificat, comme on dit, d'Innocent XI, ce bienheureux Innocent XI, ont été provoqués par le souci d'administrer l'Église, de la défendre et de la réformer. Mais les condamnations qu'il a portées contre des théories suspectes, même moins bruyantes et donc moins remarquées, ont eu quand même une importance plus profonde et plus durable que certains l'ont prétendu. Il a beaucoup aidé à ce que la saine doctrine dans l'Église soit préservé. Et la plupart du temps, à mon avis, en tout cas, dans le bon sens. Et j'ai plutôt de l'admiration pour ce bienheureux pape Innocent XI dans cette tâche extrêmement difficile. Donc, l'émission aujourd'hui vous permet de comprendre combien, dans l'histoire, ça a été difficile d'administrer cette immense Église, surtout quand elle est sujette à des influences comme celle de Louis XIV, que je vais vous expliquer tout à l'heure, et d'autres princes ou rois ou gens puissants. Alors, contrairement à ses prédécesseurs, le bienheureux Innocent XI, comme je vous dis, ne veut pas de cardinal-neveu. Il envoie même promener ses neveux qui se présentent. C'est comme une institution, ça, l'affaire de nommer des cardinaux qui sont les neveux. C'était abominable. Et c'était une institution, comme disent les bénédictins, qui a ordinairement l'inconvénient de donner de grandes responsabilités à des incapables. Les neveux sont souvent bien insignifiants. Ils étaient nommés cardinaux quand même. Le pape Innocent XI déclare qu'il n'a ni famille ni maison. Il veut en finir avec ça. Il pense publier même ce qu'on appelle une bulle, c'est-à-dire une lettre très importante, pour interdire ce qu'on appelle le népotisme. Et s'il y renonce à cause de l'opposition de certains cardinaux puis des gouvernements, il fait encore mieux, en donnant un exemple qui donne le coup de grâce à cet abus ancien épouvantable qui tant nuit au catholicisme. Sa longue expérience de la chambre apostolique, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle avait été nommée là, lui suggère des mesures intéressantes pour rétablir les finances de l'Église. Il donne l'exemple de l'économie en simplifiant le train de vie de la cour pontificale. Vous savez que la cour pontificale, c'était quelque chose. Moi, j'ai été témoin de ça en 1950 lors de la messe du pape de Pâques lors de l'année sainte. C'est une messe fantastique, un spectacle de la Renaissance. Mais il y avait là une cour pontificale, invraisemblable, invraisemblable. Eh bien, qui ne jouait plus aucun rôle néfaste, je crois, sur l'Église. Mais à l'époque, ces gens-là, dans la cour pontificale, jouaient un rôle parfois terrible. Et d'ailleurs, c'était plutôt scandaleux. Et ce pape veut vraiment simplifier ça. Comme on a simplifié la cour pontificale qui est disparue, pour ainsi dire, aujourd'hui. Il a supprimé, ce bienheureux pape Innocent XI, les dépenses somptuaires. Il a réduit les charges, les titres, les emplois. Il a annulé des dettes aussi, tellement il était économe. Et le système des impôts est revu et sévèrement appliqué. Donc, c'est un homme pratique sur le plan de l'administration. Mais c'est pas tout, parce que vous allez voir que ce pape Innocent XI prévoit aussi que les impôts ne frapperont pas les pauvres, mais qu'ils seront strictement exigés des autres, exigés de tout le monde. Pas de passe-droit. Pour assurer un niveau de vie suffisant à tout le monde, il s'intéresse aussi à l'amendement des terres, à la surveillance des prix, à la réglementation des marchés. Il combat durement les usuriers qui chargent très cher pour prêter de l'argent. Sa politique à ce pape porte des fruits énormes. Et il réussit à constituer un capital qui lui est très utile pour secourir les pauvres en temps de disette ou de famine. Et pour financer aussi la guerre contre les Turcs, c'est-à-dire les musulmans, qu'on appelle aussi les Ottomans, qui attaquent les pays chrétiens en Europe et qui veulent convertir tout le monde. Son attention se porte plus encore sur la moralité et l'enseignement de la religion. Il insiste énormément là-dessus, il est pape, il le sait, et c'est un homme pieux, je vous l'ai dit au point de départ. Il demande, bon, d'accord, aux femmes, la modestie dans les vêtements, mais il faut dire qu'il y avait des femmes qui se promenaient de façon vraiment immodeste. Hein. Il règle le fonctionnement des théâtres aussi pour éviter une censure, ce qui n'est pas toujours très accepté aujourd'hui, mais qui était considéré comme une chose normale à l'époque. Il combat surtout l'usure, les usuriers, les gens qui chargent des intérêts de 20% puis 50%. Il combat aussi les jeux de hasard. Il aurait du travail à faire ici, en Amérique du Nord, où je vois qu'il y a même des jeux de hasard de 130 millions. J'en voyais un jour à la télévision, ces jours-ci. Incroyable. On vendait des billets, évidemment, comme à la loto. Il va jusqu'à interdire les réjouissances du carnaval. En une année, d'ailleurs, où il y a de la pénurie, où l'on manque d'argent, où il y a beaucoup plus de pauvres, et les réjouissances du carnaval, ben, si les gens dépensent énormément d'argent pour des costumes, des fêtes, des bals, avant d'entreprendre le carême et de faire pénitence. Étrange attitude, très peu chrétienne. Il apporte le plus grand soin aussi dans le choix des bénéficiaires, c'est-à-dire ceux qui auront des bénéfices. Ça existait à l'époque. Il leur appelait d'ailleurs le devoir de résider là où ils ont été nommés comme évêques ou comme abbés, parce qu'il y avait des abbés comme ça qui étaient abbés de monastères et qui résidaient pas dans leur abbaye, mais qui y passaient pour aller chercher l'argent. C'est comme ça que l'abbé de Rancé s'est converti et est devenu le fondateur, si on peut dire, des cisterciens réformés qu'on appelle les trappistes. Je vous ai déjà raconté sa vie deux fois. Il déclare ce pape qu'il préfère avoir moins de prêtres pour qu'il soit meilleur. Et il leur prescrit quelque chose qui surprend le monde à l'époque. Il leur prescrit d'enseigner l'Évangile d'une façon claire et pratique. Enseigner l'Évangile d'une façon claire et pratique, c'est-à-dire enseigner les paroles de Jésus, ce que Jésus a dit. Il leur demande aussi de visiter les malades, de catéchiser les enfants. Et aux religieux, les communautés religieuses de Rome, il les oblige de demeurer dans leur couvent, et non pas en appartement, comme ça se fait même aujourd'hui. Hein. Des religieux qui ne vivent pas en communauté, qui vivent dans des appartements sur Ridgewood ou je sais pas où. C'est inconcevable. Il s'occupe de la réforme des Dominicains de Toscane et de Lombardie. Il s'occupe aussi même de la réforme des cisterciens de Pologne. Ce pape est extraordinaire. Il approuve de nouvelles congrégations aussi. Puis en 1686, il approuve la règle du tiers-ordre séculier franciscain. Oui, c'est lui qui a approuvé cette règle du tiers-ordre. Je sais qu'il y a des tertiaires franciscains qui m'écoutent. Dans ses propres états, le pape Innocent XI, bienheureux béatifié par Pie XII, je vous le rappelle, peut mater facilement les oppositions. Mais il n'en va pas de même quand il cherche à faire appliquer des règles canoniques contre la volonté des princes autoritaires et puissants. Je vous donne un exemple terrible, Louis XIV. Par la déclaration du 10 février 1673, précisée par celle du 2 avril 1675, donc avant que le cardinal Descalzi y soit élu en 1676, Louis XIV avait, de sa seule autorité prétentieuse, étendu ce qu'on appelle la régale. C'est un droit qu'avait le roi soit de jouir des revenus des évêchés vacants, oui, l'évêque était mort, et de disposer des bénéfices jusqu'à l'installation du nouvel évêque. Alors, il avait, de sa seule autorité, là, étendu la régale temporelle aux évêchés du sud de la France qui en avaient pourtant été exempts jusqu'alors. Il n'a pas demandé la permission au pape. Depuis, il revendique la régale spirituelle, c'est-à-dire le droit de nommer des abbesses de monastères de femmes. Celui qui nommerait les abbesses, imaginez. Les titulaires des bénéfices aussi qui s'en chargent d'armes lors de la vacance des sièges épiscopaux. Les décisions de ce roi, Louis XIV, avaient un effet rétroactif. Les évêques en place devaient demander de la main levée de la régale pour leur diocèse. Et l'ensemble du clergé français se soumet par conviction et ou par timidité. L'ensemble du clergé a peur de ce roi. Deux évêques seulement se refusent à demander la main levée. C'est Mgr Pavillon d'Alais et Mgr Collet, évêque de Pamiers. Puis loin de chercher une conciliation, le roi Louis XIV se met à nommer au bénéfice simple, comme si leur diocèse était vacant, les évêques. Mais les évêques Pavillon et Collet excommunient ces intrus et font appel au pape. Et vous allez voir qu'est-ce que le bienheureux Innocent XI va faire. Il va excommunier Louis XIV. C'est incroyable. Le pape Pie XII a d'ailleurs fait une synthèse extraordinaire de la vie d'Innocent XI que j'ai lue. C'est remarquable. En quelques lignes, il fait une admirable synthèse. On voit qu'il a beaucoup d'admiration pour cet homme. Je crois qu'ils avaient beaucoup de choses en commun. Mais nous revenons maintenant à ce bon pape, Innocent XI, qui reçoit un appel de deux évêques français qui ont excommunié des intrus nommés évêques par le roi Louis XIV en France. En février 1677, ça fait 5 mois qu'il est élu seulement, ce pape. 5 mois seulement. Eh bien oui, Innocent XI envoie à ses deux évêques qui ont fait appel à lui une approbation. Mais ça émeut peu en France. Les conseillers ecclésiastiques du roi Louis XIV, comme l'archevêque de Paris, Mgr Harley, et le confesseur du roi, le Père Lachaise, qui a donné son nom au cimetière du Père Lachaise, là, à Paris, un jésuite, sont convaincus, eux autres, que le pape finira bien par céder, car il devra reconnaître que le roi est de bonne foi et puis qu'il emploie sa puissance au bien de l'Église. Innocent XI raisonne différemment, lui. En janvier 1678, un an plus tard, il institue une congrégation spéciale, un groupe, pour étudier l'affaire de la régale dont je vous ai parlé, ce droit qu'avait le roi de France de prendre de l'argent dans des diocèses vacants. Et le 12 mai 1678, donc quelques mois plus tard, par un bref, au ton modéré quand même, il donne tort au roi Louis XIV. Alors, l'archevêque de Toulouse, qui est l'archevêque métropolitain de Mgr Collet, a rendu un jugement favorable au roi, lui. Il approuve le roi. Le bienheureux Innocent XI casse la sentence de cet archevêque de Toulouse par un bref. Et quelques mois plus tard, le 21 septembre, c'est vraiment la guerre entre le pape et le roi de France. Et en même temps, il écrit à Louis XIV, non pour le confondre quand même, il est poli, il est bien élevé ce pape, mais pour l'avertir comme un fus très cher, qui ne sert à rien à l'homme de gagner l'univers s'il doit par là nuire à son âme. Mais cette lettre reste sans effet, sans effet, sans effet. Louis XIV fait saisir ce qu'on appelle le temporel de Monseigneur Collet. Il s'empare de l'argent. Le pape ne se hâte pas de réagir, mais quelques mois plus tard, en décembre 1679, un an plus tard, quoi. Un nouveau bref menace le roi sanction, s'il ne change pas d'idée. L'année suivante encore, en 1682, deux épisodes viennent aggraver la lutte. Louis XIV nomme une sœur Augustine, abbesse des cisterciennes, parce qu'elle fait partie d'une famille noble, etc. Puis elle est parente. Les cisterciennes de Charonne ont une nouvelle abbesse qui est une sœur Augustine. Elle passait même pas à leur ordre. Il se soucie pas, le roi Louis XIV, de la vie des moniales cisterciennes. Puis, en plus de ça, bien, il nomme un personnage étrange, vraiment étrange, comme vicaire capitulaire du diocèse de Pamiers, vacant par la mort de Monseigneur Collet. Et cela, malgré le chapitre des chanoines, qui, eux, ont leur mot à dire à Pamiers. Parce que le chapitre des chanoines, qui use son droit, avait élu son candidat. Innocent XI, le bienheureux pape, donne tort au roi. Le parlement du roi répond par l'expulsion des religieuses et la condamnation à mort du vicaire capitulaire élu à Pamiers. Le vicaire qui a été élu par les chanoines. Sentence, heureusement, qui n'est pas exécutée, ils l'ont condamné à mort. Alors, cela ne suffisait pas au roi, qui, pour avoir pleinement raison, convoque une assemblée du clergé, puis il nomme les membres. Et Bossuet, le fameux Bossuet dont je vous ai déjà parlé, Monseigneur, évêque réputé, grand orateur, essaie d'obéir au roi sans méconnaître les droits du pape. Le 19 novembre 1681, pour la messe du Saint-Esprit, devant les députés, là, tout ça, il fait un sermon extraordinaire, puis il dit au début, j'ai ça ici sous les yeux, là, jamais il ne fut tant parlé des libertés de l'Église, et jamais il n'en fut posé un plus solide fondement que dans ces paroles immortelles de Charles VII, comme c'est, dit-il, le roi, le devoir des prélats d'annoncer avec liberté la vérité qu'ils ont apprise de Jésus-Christ, c'est aussi le devoir du prince et du roi de la recevoir de leur bouche, prouvée par les Écritures, puis de l'exécuter avec efficace ou avec efficacité. On voit que c'est un évêque qui veut ménager la chèvre et le chou, et puis finalement, il finit par rédiger ce qu'on appelle les fameux quatre articles qui sont votés en 1682. C'est au moment, ça, où le roi va se convertir d'une façon définitive, ça, avant de mourir. Mais de toute façon, il est toujours têtu à l'égard du pape. Le premier article affirme l'indépendance du roi sur le plan temporel, c'est normal. Le deuxième puis le quatrième article, il y en a quatre, là, revendique la supériorité du concile sur le pape. Le troisième entend maintenir les coutumes de l'Église française, l'Église gallicane, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté. Le tout est très vague et susceptible d'interprétations de toutes sortes. Les coutumes gallicanes ou françaises de cette Église n'ont pas le même sens pour les évêques, qui marchandent leur obéissance au pape. Et pour les parlementaires, eux, qui empiètent sur le droit des évêques, malgré leurs protestations, c'est toujours la dispute entre le pouvoir spirituel puis le pouvoir temporel. L'Assemblée admet la régale temporelle et conseille au roi de renoncer à la régale spirituelle. Le bienheureux Innocent XI répond à ces décisions par le bref du 11 avril 1682 où il repousse la régale sans attaquer directement les quatre articles. Car il préférait un coup d'autorité contre une réfutation qui soit sérieuse, vraiment théologique, conduite par les Espagnols. Puis, elle ne voit pas le jour. Alors, le pape réagit efficacement sur un autre terrain. Le Louis XIV entend récompenser la docilité des ecclésiastiques en leur donnant des évêchés. Mais Innocent XI considère comme indigne tous ceux qui ont souscrit aux articles, aux quatre articles. Il leur refuse de les approuver comme évêques. Et en 1688, ça fait plusieurs années que ça dure, 35 évêchés se trouvent sans titulaire en France. Ils n'ont pas d'évêques. Cependant, les relations entre la France et le Saint-Siège subsistent et Innocent XI ne manque pas d'envoyer ses vœux. Ses condoléances, même. lors des événements qui concernent la famille royale, où il y a beaucoup de gens qui meurent. Surtout, l'affaire de la Régale n'enlève pas au pape Innocent XI l'espoir de faire entrer le roi Louis XIV dans une grande coalition des nations chrétiennes contre les Turcs musulmans, parce que l'Empire ottoman turc domine l'Europe centrale. C'est très, très, très dangereux. Ils sont rendus à Vienne. Hein. On peut toujours craindre une nouvelle invasion qui submergerait les États de la famille royale des Habsbourg. Ça déferlerait sur l'Italie et sur Rome. Vous voyez ça, les musulmans rendus à Rome. Alors, Innocent a le projet grandiose de constituer une sainte ligue pour défendre l'Église, et dans laquelle entreraient, avec les États catholiques d'Occident et de Pologne, les princes même de Géorgie, le tsar de Moscou, puis les Persans qu'on appelle aujourd'hui les Iraniens. L'argent manque. Innocent XI en fournit grâce aux réserves qu'il a constituées, parce qu'il était un pape économe depuis le début de son pontificat. Et bien plus grave, c'est la mésentente entre les princes chrétiens, la rivalité de Louis XIV et des Habsbourg, qui a des répercussions dans toute l'Europe. Or, puis là, en Pologne, le gouvernement, qu'on appelle la Diète, n'est pas favorable à une alliance avec l'empereur. Alors, le bon pape Innocent XI met tout en œuvre pour modifier cette politique. Sa persévérance est récompensée par un accord entre Léopold Ier puis Jean Sobieski. Je vous en ai déjà parlé de Jean Sobieski. Il était temps, d'ailleurs, que l'entente se fasse. Et là, une puissante armée turque est venue mettre le siège devant Vienne, la capitale de l'Autriche, pays très catholique, qui doit son salut, justement, à Jean Sobieski. Le 12 septembre 1683, c'est la victoire. Et en reconnaissance, le bienheureux pape Innocent XI institue la fête du Saint-Nom de Marie. C'est de là que ça vient. Et cette victoire marque le début du déclin de la puissance musulmane ottomane en Europe. Innocent XI veut exploiter le succès en relançant l'idée de la Sainte Ligue. Et il réussit à convaincre la République de Venise, mais pas Louis XIV, qui, s'il n'a pas voulu gêner l'empereur au moment du siège de Vienne, n'a pas été mécontent d'une diversion qui lui évite de voir la coalition des États qu'il a mécontenté de tourner contre lui, là. Puis la victoire de Vienne contre les musulmans vaut naturellement à l'empereur un regain de prestige, dont Louis XIV ne tente pas à regretter ça. Il n'est pas content, ce roi de France, mais ce roi de France se pose de plus en plus en protecteur de la religion catholique. Il change d'avis. Sans songer, évidemment, à se mettre au service du pape quand même, ni à lui demander conseil, ni même à esquisser un geste de réconciliation, en dépit de sa conversion. Il préfère s'attaquer aux hérétiques, c'est-à-dire aux protestants. On les appelait les hérétiques dans le temps. Le 14 octobre 1685, l'édit de Nantes, qui a accordé, comme vous savez, aux protestants français la liberté, est révoqué. Mais le bienheureux pape Innocent XI lui accueille la nouvelle sans enthousiasme du tout. Il ne peut évidemment désavouer, une mesure qui, dans la mentalité du temps, semble normale, retirer aux protestants leurs droits, mais... Alors, il leur donne donc un tédéum, il est forcé à ça, un tédéum d'action de grâce, mais il manifeste des doutes, il gêne pas, sur la valeur des conversions des protestants catholiques qui sont obtenues par les dragonnades. Hein? Les dragonnades, c'est les procédés violents que les Français utilisaient dans le sud de la France pour convertir les protestants, dans les Cévennes surtout. Et loin de se croire tenu de marquer quelque reconnaissance au roi, le pape crée cardinal l'évêque de Grenoble, Monseigneur Le Camus. Qui est Monseigneur Le Camus? C'est un évêque extraordinaire qui était tombé en disgrâce pour avoir désapprouvé la persécution violente contre les protestants qu'on appelait les Huguenots. Hein. Et d'autre part, devenu roi d'Angleterre à la mort de son frère Charles II, en 1685, Jacques II, converti au catholicisme, reçoit des conseils contradictoires du pape Innocent XI et Louis XIV. Le roi est partisan de la force contre les protestants, alors que le pape, lui, par l'intermédiaire de son envoyé Jérôme d'Adda, recommande la prudence et la tolérance, et le roi Jacques II écoute malheureusement le roi Louis XIV qui est dur. 3 ans plus tard, les lords anglais font appel à Guillaume d'Orange, qui est gendre du roi Jacques II, qui s'empare du trône, il l'arrache à son beau-père. En janvier 1689, le pape Innocent XI ne peut qu'assister avec douleur à cette offensive protestante, qui va peser très lourdement pendant plus d'un siècle sur les catholiques des îles britanniques, hein, qui seront persécutés. Puis il y a les jansénistes, toute une histoire de jansénistes, où le pape réussit à se conduire finalement comme un pourfendeur des horreurs du jansénisme. Alors, le pape Innocent XI, je vous ai dit, était mêlé un peu à l'histoire des jansénistes à l'époque. En résumé, on peut dire qu'il a pu montrer pour les jansénistes une certaine sympathie à un moment donné. Mais il est si loin de leur doctrine que sous son pontificat, la congrégation du concile autorise la communion fréquente, et même quotidienne, ce que la plupart des jansénistes ont en horreur. Et plus encore que les jansénistes, il y a les quiétistes, qui semblent avoir la faveur d'Innocent XI. C'est le quiétisme de Michel Molinos, de la guide spirituelle, c'est toute une histoire. Mais en 1685, Molinos est emprisonné chez les Dominicains, dans un couvent de Dominicains, emprisonné. Hein. Il est confiné, disons, dans un monastère de Dominicains. Et son procès est commencé. Et les oppositions entre le roi et le pape sont toujours les mêmes. Louis XIV combat les hérétiques avec acharnement, comme il les appelle, les protestants. Innocent XI, plutôt, lui, favorise les protestants, semble-t-il. Il veut être doux avec eux. La politique du roi ne résout aucun problème. Elle durcit les positions, prépare les révolutions futures. Loin de désavouer leurs prédécesseurs, d'ailleurs, l'Innocent XI, après sa mort, les papes qui l'ont suivi l'ont glorifié, en se gardant de remercier son antagoniste... pour ses interventions épouvantables, l'antagoniste, Louis XIV, qui est intervenu contre les protestants de façon tapageuse. Ils n'ont jamais félicité. Beaucoup moins grave par leurs conséquences, il y a de nouvelles escarmouches qui contribuent à maintenir la tension entre le pape et le roi. Il y a le quartier des ambassades à Rome. C'est une histoire étrange, ça. Parce que le quartier des où étaient les ambassades, ça existe toujours à Rome, hein, le quartier des ambassades au Vatican. Ils jouissaient de franchises, à tel point que la police pontificale, la police du pape sur les grands états pontificaux, là, ne pouvait y pénétrer. Ça assurait à toutes sortes de malfaiteurs, à tous ceux qui avaient maille à partir avec la justice, un asile, parfaitement sûr, pour commettre tous les crimes qu'ils voulaient. Dès le début de son pontificat, le bienheureux Innocent XI s'occupe de cette question dans le cadre des réformes imposées à la ville de Rome. Et en 1679, c'est l'année de sa mort, ça fait deux ans qu'il est pape, Venise puis l'Espagne acceptent une révision du statut des ambassades. Mais comme on doit s'y attendre, Louis XIV ne veut renoncer à aucun des privilèges exorbitants dont jouit son ambassadeur français à Rome, sans penser... qu'il n'aurait certainement pas toléré la même état de choses en faveur des ambassadeurs accrédités auprès de lui à Versailles. Par une bulle du pape en 1687, Innocent XI supprime le droit d'asile de ses ambassadeurs. Loin de chercher un ambassadeur conciliant, Louis XIV nomme le marquis de Lavardin qu'après une entrée tapageuse à Rome, à la fin de l'année 1687, il multiplie les provocations au pape. Le pape considère comme excommunié l'ambassadeur, le roi Louis XIV et même ses ministres. Il n'y va pas de main morte, ce bienheureux pape Innocent XI. Alors déçu, Louis XIV fait occuper Avignon, où les papes ont longtemps résidé. Il lance des appels au Conseil général. Le bienheureux pape Innocent XI n'est pas seulement accusé d'ambition temporelle, on lui reproche aussi de soutenir les hérésies jansénistes et quiétistes, ce qui est fou. Le nonce, ou l'ambassadeur du pape, Ranuzzi, est enfermé en France, à Saint-Omer. Puis l'ambassadeur du roi Louis XIV à Rome, Lavardin, excommunié, quitte Rome. La situation apparaît comme inextricable, puisque ni le pape ni le roi ne veulent céder. Il ne faut pourtant rien exagérer. Si le clergé français reste silencieux, il n'aurait jamais accepté un véritable schisme. L'Église catholique française n'a jamais songé à former une Église vraiment gallicane séparée de Rome, comme il y a l'Église anglicane en Angleterre. sûr que son droit et son devoir est de défendre les libertés de l'Église, le bienheureux pape Innocent XI meurt très pieusement le 12 avril 1689. Homme de courage, homme d'un très grand courage, presque sans borne, en dépit, comme je vous ai dit, de son confinement presque constant à sa chambre pendant 7 ans, de ses insomnies, de ses dépressions momentanées devant tant de combats qu'il a amenés alors qu'il aurait tant voulu s'occuper du spirituel, de la réforme constante de son clergé, de ses évêques, de l'Église entière. La paix entre la France et le Saint-Siège a été l'œuvre de ses successeurs. Ses successeurs, ces autres papes, ont eu eux aussi à soutenir bien des luttes pour la défense des libertés de l'Église. Et ils ont su profiter de l'exemple de fermeté que leur a laissé ce grand pape du XVIIe siècle, le bienheureux Innocent XI. Innocent XI a été enseveli à Saint-Pierre de Rome, dans un monument grandiose qui est l'œuvre de Mono, M-O-2-N-O-T. C'est curieux qu'on ait eu au XXe siècle un Mono qui était un athée convaincu qui a tant fait parler de lui, en publiant même un livre pour nier l'existence de Dieu. Grand médecin, grand biologiste, grand savant. Le pape Innocent XI jouissait d'une réputation de sainteté telle que sa cause de béatification et de canonisation est introduite dès 1714, très peu de temps après sa mort, 15 ans après sa mort, du vivant même de Louis XIV. Et sa cause a progressé lentement, jusqu'au pontificat de Benoît XIV, quelque temps plus tard, qui a régné pendant 18 ans, lui, de 1740 à 1758, puis s'est arrêté à cause des inquiétudes que ça pouvait causer sur le plan des relations, justement, entre la France et le Saint-Siège. La cause a été reprise finalement au XXe siècle, en 1944, avant la fin de la guerre. Puis elle a abouti à la béatification, comme je vous ai dit tout à l'heure, par Pie XII, le 7 octobre 1956. Je vous ai parlé de Louis XIV. Vous savez que dans les disputes entre Louis XIV et Innocent XI, Madame de Sévigné a donné l'impression produite sur les fidèles par le courage d'Innocent XI et par la faiblesse des évêques de France devant le roi Louis XIV. Elle dit « Sur la régale, le pape a écrit au roi une lettre comme l'aurait écrite Saint-Pierre. » Louis XIV, je vous le signale, je vous l'ai dit tout à l'heure, a passé le temps de ses grandes amours, tout ça, il s'est converti en 1682, si je me souviens bien. Et il a pensé que la cour pourrait suivre son exemple, il a déclaré que l'impiété, le blasphème, le libertinage seraient désormais un obstacle aux avancements, et les courtisans à la cour de France se le sont tenus pour dire. Louis XIV a supporté beaucoup de deuil, comme je vous l'ai insinué tout à l'heure, avec, paraît-il, un grand courage chrétien chez ce roi qui a tant fait preuve de libertinage et de paganisme. Il est mort dans son palais de Versailles le 1er septembre 1715, et Massillon disait, le fameux Massillon, le prédicateur, disait quelques jours plus tard, dans son oraison funèbre, Dieu seul est grand. C'est audacieux de dire ça. Quand on l'appelait Louis le Grand, eh bien cet évêque a osé dire Dieu seul est grand lors des funérailles de ce roi qui a été un très mauvais exemple pendant presque toute sa vie.